Pour les juifs d'aujourd'hui,
une bonne promesse.
Une bonne promesse. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Cette promesse merveilleuse-là, puis le Seigneur m'a arrêté cette semaine sur ça, sur cette promesse-là. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Le Seigneur m'arrêtait, puis me disait, à qui cette promesse-là est adressée? C'est adressé à la septième église, à la dernière église, l'église de la Laodicée. Mais il y a comme une condition à cette promesse-là. Parce que toutes les promesses de Dieu, il y a toujours des conditions. Mais il y a quelque chose de bien spécial avec cette promesse-là. Si on lit les versets, c'est écrit à l'ange de l'église de la Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle. Et repends-toi. Cette promesse-là, verset 20, qu'on a vu tantôt, elle s'adresse à la septième église, mais juste une certaine catégorie de gens dans cette septième église. Elle s'adresse à ceux qui vont répondre à l'appel de l'Esprit, qui vont écouter la voix de l'Esprit, parce qu'on dit tout à chaque église, Dieu dit que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit des Églises entende. Donc, il y a une écoute de l'Esprit qu'on doit avoir. Cette promesse-là s'adresse pour ceux qui vont avoir écouté l'Esprit et qui vont avoir fait ce qu'il dit au verset 18 et 19. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, des vêtements blancs, et un collier pour moindre tes yeux. Là, il dit bien, aie donc du zèle, et repens-toi. Cette promesse-là est pour ceux qui vont avoir du zèle, qui vont s'être repentis. Repentis de quoi? Repentis de cette attitude-là qui est au verset 17. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Cette attitude-là qui déplaît beaucoup au Seigneur. Une attitude de suffisance en elle-même. Une attitude de dire, Seigneur, tu m'as béni, tu m'as donné plein de richesses matérielles, puis là, je suis content. Mais puis, Seigneur, j'ai tout. Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et le Seigneur, ça déplaît. Cette attitude-là de chrétiens qui se sont satisfaits d'une bénédiction purement matérielle, comme on le voit aujourd'hui dans nos églises, surtout en Amérique du Nord, mais tout. Une richesse matérielle, on se satisfait d'une richesse matérielle comme si on a le trésor. Mais le vrai trésor, ce n'est pas la richesse matérielle. Le vrai trésor, c'est Christ lui-même. C'est lui le trésor. Puis, il y a quelque chose que cette église-là avait perdu en disant « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. » Elle avait perdu sa condition, dans la Bible, ça n'arrête pas de dire que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Notre patrie n'est pas ici. Notre patrie, notre richesse n'est pas ici. Bon, nous sommes des étrangers et des voyageurs en direction d'une patrie. Et la patrie est ici. On va tourner dans 1 Hébreu 11, les versets 13 à 16. Hébreu 11, les versets 13 à 16. Ça parle quand même que, qu'en tant que croyant, en tant que chrétien, notre cité n'est pas si bonne. Nous sommes des étrangers, c'est-à-dire des gens qui sont d'un autre pays. Étrangers, c'est-à-dire, c'est comme nous autres quand vous arrivez ici, vous êtes des étrangers par rapport aux Québécois. Mais nous autres, en tant que croyants, quand on vient à Jésus, on devient des étrangers par rapport à ce monde-ci. Des citoyens d'un autre pays. On n'appartient pas à ce pays-ci. Verset 13 à 15, ça dit bien, c'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers. Ils voyagèrent sur la terre. Quelqu'un qui voyage, c'est quelqu'un qui n'a pas trouvé encore sa patrie. Puis en tant que croyant, c'est juste temporaire ici. Bon, on est appelé à une patrie qui est céleste. Ceux qui parlent ainsi, verset 14, montrent qu'ils cherchent une patrie. Ils cherchent une patrie. La patrie qui est ici-bas ne suffit pas. Les richesses ici-bas ne suffisent pas. Il y a quelque chose de plus grand. Il y a un trésor plus grand. Il y a une patrie, il y a un héritage. Un héritage plus grand que simplement les richesses matérielles. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Pas d'Abraham de quitter sa patrie. Ils auraient eu en masse le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. On est des étrangers, des voyageurs. On a marché en vue de quelque chose qui est là devant nous autres. Notre trésor, notre richesse, notre héritage, c'est pas les choses terrestres ici. Bon, c'est Christ. C'est l'héritage de Christ. Quand Jésus a versé son sang à la croix, il nous a donné un héritage tellement grand, tellement glorieux, que on peut passer toute la vie à essayer de faire le tour de ce stade-là, sans jamais en faire le tour. Psaume 71, verset 15 à 16. Psaume 71, verset 15 à 16. Ça dit, David dit, ma bouche publiera ta justice, ton salut, chaque jour, car j'ignore quels en sont les bornes. Je publierai ta justice, ton salut, chaque jour, car j'ignore quels en sont les bornes. C'est illimité. Le salut de Dieu, la justice de Christ, que tu t'y arrêtes, c'est sans borne, c'est illimité, c'est tellement grand que à chaque jour, David disait, j'arrêterai pas de publier ça parce que ça me dépasse. Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel, je rappellerai ta justice, la tienne seule. Bon, il ne parlait pas de sa justice à lui, la tienne seule. C'est quelque chose que Dieu a appelé chaque chrétien à faire le tour de cet héritage qu'on a en Jésus-Christ. À prendre le temps de s'arrêter pour chercher les choses en haut. Chercher le royaume qui est en haut. La Colossiens, ça dit, ne vous affectionnez pas aux choses de la terre, mais affectionnez-vous aux choses d'en haut. Notre héritage est en haut, il est en Christ, il est caché en Christ. Puis c'est le même problème qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Ils ont eu le même problème. L'Église aujourd'hui vit le même problème que les enfants d'Israël avaient vécu du temps de Moïse. On voit ça dans Deutéronome. Deutéronome 32, verset 15. Deutéronome 32, verset 15. Israël est devenu gras. Et il a rejaimbli. Il est devenu gras, épais, il replait. Tout un but de lui-même. Tout satisfait de moi-même, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Comme l'Église aujourd'hui. Et il a abandonné Dieu, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son sel. Encore le même mot, méprisé. Le même mot que je disais dans l'hébreu il y a 2-3 semaines. Mépriser, regarder comme peu de choses le rocher de son salut. Christ, le rocher de notre salut, c'est Christ. C'est le rocher qui a été brisé, qui a été frappé pour qu'on ait la vie. Parce que du rocher frappé, quand Moïse a frappé, il est sorti des sources d'eau vive. C'est Jésus, ce rocher frappé. Donc, c'est le rocher de notre salut, c'est Christ. Mais il ne faut pas mépriser le rocher de notre salut. C'est tellement grand, ce salut-là, que ça vaut la peine de chercher les choses en haut, de chercher à comprendre la grandeur de cet héritage-là. Parce qu'on ne va jamais faire le tour. Nous, ça fait 3 ans et demi que Dieu nous a ramenés à l'essentiel, à la base, au salut, en Jésus-Christ. Ça fait 3 ans et demi qu'on passe presque l'entière, une grosse partie de notre temps, juste à se tenir devant Dieu, puis à discerner, à recevoir des révélations de Christ. Crucifié, de ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Puis, on a 2 livres d'écrit, juste ce que Jésus a accompli à la croix. Qu'est-ce que ça a accompli dans notre vie? C'est quoi ce salut-là? Qu'est-ce que ça regarde? Qu'est-ce que ça vient toucher dans ma vie? Qu'est-ce que ça change dans ma vie? Parce que c'est une puissance spirituelle. L'évangile de Jésus-Christ, c'est une puissance de salut pour le salut de quiconque croit. Il y a une puissance, Christ crucifié, il y a une puissance derrière ça pour transformer toute notre vie. Ça compte, ça, Dieu a pourvu à tout. Tous nos besoins sont rencontrés à la croix. Il faut s'arrêter, ça. Il faut regarder, pour lever les yeux vers le ciel. Puis regarder à Jésus. Puis regarder, c'est quoi qui a accompli pour notre vie. C'est ça que, si on retourne dans l'Apocalypse, c'est ça que l'Église de la Laodicée avait perdu de vue. Elle disait, je suis riche. Elle regardait juste sa condition physique présente, sa condition terrestre. Puis elle avait perdu de vue qu'elle était étrangère et voyageuse sur cette terre. Puis elle regardait juste ça, puis elle disait, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Puis elle avait perdu de vue les choses d'en haut. Elle avait perdu de vue Christ, l'héritage. C'est pour ça, la promesse qu'on a lue au verset 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est une promesse que Dieu a promis. Il savait qu'à la fin des temps, il viendrait revisiter son peuple, revisiter son Église. Mais ça va prendre une condition de retour, une repentance. C'est-à-dire, repentance, c'est de se tourner l'Église, qui se dit riche, qui se dit que je me suis enrichi, a besoin de repentance, de revenir, de se détourner de sa richesse terrestre, de recommencer à regarder vers le ciel. Puis cette promesse-là, de verset 20, est pour ceux qui vont se repentir, qui vont revenir de cette, juste regarder les conditions présentes, mais commencer à regarder la Christ, l'héritage. Jésus-Christ crucifié. Qu'est-ce qu'il a accompli pour nous? C'est pour ça qu'il dit au verset 18, je te conseille, je te conseille d'acheter de moi. Hein? Jésus donne la solution. Il dit, c'est moi. D'acheter de moi. Jésus dit dans Isaïe 55, venez acheter gratuitement sans rien payer. Jésus a tout pourvu. Mais il veut qu'on prenne le temps. Quand il dit acheter de moi, c'est comme s'il y a un prix. C'est gratuit. Mais il y a le prix de se tourner vers lui. Il y a le prix de regarder un regard de foi, de s'élever au-dessus des choses de la terre, avec un regard de foi de dire, Seigneur, je veux saisir ce que tu as pour moi. Ça prend aussi le temps de le faire. Parce que les gens aujourd'hui sont tellement occupés, ils sont tellement en train de courir après les richesses, que nous autres, on a des amis à Montréal, des amis chrétiens, puis ils sont tellement occupés. Ils ont tellement de choses à faire, mais ils n'ont pas le temps de s'arrêter.
On se parle avec le combat.
Seigneur, viens arrêter, sachez que je suis Dieu. Prenez le temps de s'arrêter. Il faut prendre le temps de s'arrêter dans la vie pour trouver les trésors qui sont plus que les trésors terrestres, les trésors de Christ. Il faut prendre le temps de s'arrêter, de regarder aux choses en haut. C'est ça que Dieu reproche à l'Église de la Laodicée. C'est pas si malheureux, si misérable pour la redémission. Tu as oublié. Tu penses qu'avec ta richesse terrestre, ça me satisfait, ça. Tu penses que cette richesse terrestre-là me satisfait, moi. Le Seigneur, il dit ça à l'Église. Tu penses que je suis satisfait de toi parce que là, tu t'es enrichi. Le Seigneur, il ne comprend pas son Église parce que c'est pas ça qui satisfait. C'est la Dieu regarde au cœur. Il veut avoir un cœur qui soit transformé à l'image de Jésus. Mais pour être transformé à l'image de Jésus, c'est pas les richesses terrestres qui vont me transformer à l'image de Jésus. C'est d'avoir une révélation de ce qu'il a accompli à la croix. C'est ça qui est dit. Je te conseille d'acheter de moi, d'en haut. Là, il y a trois choses ici. De l'or éprouvé par le feu, les vêtements blancs et un collier pour un autre ici. Il y a trois choses que Jésus veut absolument qu'on ait avant de nous bénir, avant de nous visiter, avant d'accomplir le verset 20. Il faut qu'on reçoive de Jésus ces trois choses-là. De l'or éprouvé par le feu, un vêtement blanc et un collier pour un autre ici. Ces trois choses-là, c'est Christ crucifié. Ces trois choses-là, un vêtement blanc, c'est la justice. Christ a été fait pour nous justice. Ça, c'est le vêtement blanc. Christ a été fait pour nous justice. C'est de saisir cette justice que j'ai parlé la semaine passée. La justice, nous avions une nature de péché, et Dieu nous donne une nature de justice. Il y a un changement de nature. Un changement d'esprit à la base de notre vie. Ce que Jésus a compris à la croix, il a enlevé le vieil homme de notre chair, il a circoncis ce vieil homme-là, puis nous a couvert de sa justice. Il faut prendre le temps de se saisir de ça. Il faut prendre le temps d'aller à lui pour recevoir ce vêtement de justice. C'est lui qui le donne. Il faut prendre le temps de se laisser imbiber de cette révélation, de cette transformation d'esprit que Dieu veut donner à son Église. D'acheter de moi ce vêtement blanc. Ça, c'est la justice de Christ. Christ, notre justice. C'est la première, premier fondement que Christ a accompli à la croix. Christ, il savait que la nature de péché, si on demeurait avec cette nature de péché-là, on ne pourrait jamais aller plaire. Celui qui garde la nature de péché, qui n'a pas le cœur circoncis par Jésus, ne peut jamais plaire à Dieu, parce qu'il retombe toujours dans les vieux patterns, ses vieilles habitudes passées. Ça prenait un nouvel esprit, un nouveau souffle pour nous animer de sa pensée, de sa justice. Ça, c'est ce que Jésus a fait à la croix. Christ, notre justice. Christ a accompli à la croix ce qui avait été promis par tous les prophètes de l'Ancien Testament, qu'un jour Dieu circoncirait notre cœur. Ça, c'était la grande promesse, parce que Moïse, il parlait d'Israël, puis il dit, Seigneur, ton peuple ne t'obéit pas parce qu'il n'y a pas le cœur circoncis. Tant que le cœur n'est pas circoncis, l'obéissance est impossible. Parce que ça prend un cœur pour obéir à Dieu. C'est juste Jésus qui donne ce cœur-là, un nouveau cœur. C'est lui-même qui donne sa justice. Il nous revêt de son cœur, de son esprit, pour qu'on aime, qu'on prenne plaisir à ses commandements, qu'on prenne plaisir à ses voies. Ça, c'est sa justice, c'est prioritaire. S'il n'y a pas ce cœur-là changé, transformé par Jésus, ça va nulle part. C'est comme vouloir forcer quelqu'un à faire quelque chose, ça ne marche pas. C'est comme, aujourd'hui on prie, mais on ne peut pas forcer personne à venir prier avec nous autres, c'est impossible. C'est le cœur, c'est au niveau du cœur. Il faut que le cœur soit touché par l'Esprit de Dieu pour venir prier dans la présence de Dieu. Pour avoir des regards vers les choses d'en haut. Parce que celui qui n'a pas les regards vers les choses en haut, il ne comprend pas pourquoi il faut prier. Il va dire, moi, j'ai besoin d'argent, je vais aller travailler aujourd'hui, j'ai besoin d'argent. Il va voir juste les richesses matérielles. Mais celui qui a le cœur tourné vers Dieu, qui comprend qu'en Jésus-Christ, il y a quelque chose de plus, son cœur va l'attirer, il va dire,
il va trouver le temps.
Il va chercher, il va trouver le temps. Ouais. Il va prendre le temps. Parce que si tout nous autres, même, si on prendrait pas le temps, on ne serait pas ici aujourd'hui. C'est parce qu'on a dit à quelque part, on a décidé, bon, aujourd'hui, c'est samedi, on est là 5 autres journées dans la semaine, et le samedi, c'est pour le Seigneur, puis il dit, ben là, c'est un temps pour s'approcher de lui.
Et le baptême.
C'est un temps béni!
Et le vendredi.
Et le baptême. Ben là, c'est particulier. Mais, tu sais, il y a un temps que Dieu appelle chacun de ses enfants à s'approcher de lui. Faut que chacun des enfants prenne le temps. Parce que tantôt, tu restes condition verset 17. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mais quelqu'un qui est comme ça ne peut pas être béni. Il ne peut pas avoir la promesse du verset 20. Ce n'est pas possible. La promesse du verset 20 n'est pas là pour ceux qui sont dans la condition du verset 17, qui disent « Je me suis riche, je me suis enrichi, mais besoin de rien. » Parce que il y a un autre verset dans Jean chapitre 14, verset 23. Jean chapitre 14, verset 23. Ça nous dit clairement que l'amitié de Dieu, la visite de Dieu, la présence de Dieu, est seulement pour ceux qui gardent sa parole. Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. La promesse de venir cogner à la porte, et de venir chez nous, cette promesse-là n'est seulement possible que pour ceux qui répondent à l'appel de l'Esprit de Dieu, qui gardent sa parole. Ceux-là, Jésus va venir les visiter. Mais ceux qui ne répondent pas à l'appel de l'Esprit, qui ne gardent pas sa parole, qui sont replets d'eux-mêmes, qui sont satisfaits de leur richesse matérielle, Dieu ne peut pas les visiter. Parce qu'il faut d'abord qu'ils se repentent. Il faut d'abord retrouver notre condition de voyageurs, de résidents temporaires sur cette terre, et de rechercher les choses en haut, de recommencer, de retrouver ce zèle-là, parce qu'il dit, est donc du zèle, ça veut dire un ardeur, une ferveur. Il y a une ferveur pour Dieu. Mais plus qu'on s'approche de Dieu, plus on a du zèle. Parce que le zèle, il augmente. Si tu fais un petit pas avec Dieu, ben Dieu dit, viens, je vais te visiter. Je vais te remplir de mon esprit, et je vais te bénir. Fait que là, plus que tu t'approches de Dieu, plus que tu as un goût. Le goût augmente. L'appétit vient en mangeant. C'est ça, c'est ta mesure spirituellement. L'appétit de Dieu vient en mangeant. Plus que tu t'approches de Dieu, plus que tu as le goût, plus que tu as soif. Ben, c'est pour cela que Dieu donne la promesse. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Le dernier chant qu'on a chanté, que tu as chanté, c'était comme une confirmation du message que Dieu me donnait aujourd'hui. Je me tiens à la porte, je vais vous visiter. Je vais vous visiter d'une manière toute particulière, toute spéciale, parce que vous vous tenez à ma porte, parce que vous entendez ma voix, que vous regardez en haut, vous regardez aux choses de Dieu, aux choses célestes. Mm. C'est ça, la première des choses, c'est le vêtement blanc. C'est la première des choses qu'on doit recevoir de lui, la justice de Christ, son esprit, un nouvel esprit, un nouveau cœur. La deuxième des choses, c'est de l'or éprouvé par le feu. C'est quoi ça, de l'or éprouvé par le feu? C'est Christ, notre sanctification. C'est le deuxième item de 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. Christ, notre sanctification. Sanctification, ça veut dire mise à part. Sanctification, ça veut dire que une nouvelle nature n'appartient plus au monde. C'est séparé, c'est mise à part. Tu n'as plus en toi les choses de ce monde, tu en toi, tu appartiens à Dieu. Tu deviens un trésor pour Dieu. Tu deviens quelqu'un qui a de la valeur pour Dieu. Mais c'est ça qui est notre sanctification. Ça veut dire que en Jésus, nous appartenons à Jésus. Nous changeons complètement d'identité. Nous n'appartenons plus au monde. Si nous n'appartenons plus au monde, nous ne suivons plus le même chemin que le monde. Nous marchons complètement à contre-courant. Le monde coule tout dans la même direction, tandis que nous autres, chrétiens, on coule dans la direction opposée. Parce qu'on n'a plus l'esprit du monde, on a l'esprit de Dieu. On a été sanctifiés, c'est-à-dire mis à part, séparés. Puis parce qu'on marche à l'opposé de la mentalité du monde, il y a une opposition. C'est ça qui va avoir une opposition. Mais c'est ça. Christ, notre sanctification, nous donne la grâce aussi de souffrir avec lui. Parce qu'il va y avoir une opposition. Si on marche avec l'Esprit de Dieu, c'est sûr qu'il va y avoir une opposition face au monde. Mais il y a une grâce. Il y a une grâce pour souffrir. Il y a une grâce pour passer à travers, pour marcher avec Jésus. Son esprit est là. C'est ça, c'est cette grâce-là qui fait que les peu de souffrances qu'on souffre avec Jésus, c'est-à-dire que c'est un poids éternel de gloire. C'est de l'or.
C'est pas vrai.
Christ, notre sanctification, nous entraîne avec lui sur cette voie-là qui est le chemin étroit, mais c'est ça l'art purifié par le feu, l'art éprouvé par le feu, c'est un trésor, c'est une récompense qui est due à cause du sang de Jésus. C'est pas dû à cause de mes œuvres, parce que c'est une grâce de souffrir, c'est la grâce qu'on a de suivre Jésus. C'est pas parce que moi je suis bon, non, je reçois sa sanctification, je reçois, c'est Christ m'a mis à part pour lui, il m'a racheté. Puis là, il m'a mis son esprit avec moi pour me guider. Puis là, il dit, chaque pas que tu fais, j'ai tracé ça, ça devant toi. Les choses qui t'arrivent dans la vie, j'ai tout fait concourir à ton bien. C'est que ce pas, ce chemin-là tracé, qui va à l'encontre du chemin du monde, ça l'amène des épreuves, mais c'est une gloire. C'est ça que la Jacques dit, regardez les épreuves comme un sujet de joie parfait. C'est ça qui nous enrichit. Les épreuves nous font grandir. Les épreuves, comme je disais sur le passé, Dieu nous appelle à être nous-mêmes, à devenir de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Il nous appelle à être nous-mêmes. Parce qu'on lui appartient, on devient nous-mêmes de l'or. En lui appartenant. Mais comme je disais sur le passé, que ce soit de l'or, que ce soit de l'argent, que ce soit des pierres précieuses, tous ces matériaux précieux sont formés juste sous des températures, des pressions énormes. C'est des matériaux qui ont peu de valeur comme le diamant. Le diamant est à la base du vulgaire charbon. C'est un matériau sans valeur. Mais si tu mets ce charbon-là au centre de la Terre, tu le mets sous des pressions et des chaleurs énormes, ce charbon-là va devenir du diamant. Le matériau le plus précieux sur la Terre, c'est du diamant. Ça vient du vulgaire charbon. Il faut que le charbon passe au travers du feu. Pression. L'homme aujourd'hui fait des diamants artificiels, mais comment? Ils prennent du charbon, puis là, ils mettent ça dans des grosses machines, beaucoup, beaucoup de chaleur intense, puis des pressions énormes, puis là, le charbon se transforme, puis devient du diamant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des diamants artificiels qui sont créés par l'homme, parce que l'homme a trouvé le moyen, sous des pressions et des chaleurs énormes, de reproduire des diamants. Mais c'est l'image. Nous sommes appelés à être des pierres précieuses devant Dieu à cause de notre appartenance, à cause que Christ nous a rachetés pour lui. C'est ça qui va nous mettre, qui va nous faire passer au travers du feu, voir des épreuves. Mais il est là avec nous. Il est avec nous autres. C'est lui qui nous forme. C'est lui qui nous garde pour ne pas à craindre, parce que toutes les épreuves concourent à notre bien. Les épreuves ne sont plus là pour notre malédiction. En Jésus-Christ, qu'est-ce que ça dit qu'on a été mis à part, séparés? Ça dit aussi que toutes les malédictions, Christ les a portées. Tous nos châtiments qui étaient dus à cause de nos péchés, il a tout porté, il a tout porté notre terme. Fait que les circonstances qui arrivent, c'est pas pour nous abattre, pour nous détruire. C'est toujours, en Jésus-Christ, il ne reste plus que de la bénédiction, il ne reste plus que du bien. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'objet de malheur qui peut nous atteindre si on s'attache à Jésus. C'est-à-dire que toutes les épreuves, c'est Dieu qui va être grandi, il va être avec nous, qui va faire sortir de l'ordre de notre vie. C'est sa promesse. Mais c'est comme tu as dit, acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. C'est donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement s'attacher à Jésus et croire. Croire qu'à la croix, j'ai été sanctifié. J'ai été mis à part, j'ai été placé pour lui, puis que maintenant, c'est son chemin. C'est sa grâce, c'est son esprit qui me prend, qui me conduit, parce que je suis son enfant. Je ne suis plus l'enfant du monde, je suis son enfant. Et étant son enfant, jamais, jamais Dieu ne va nous délaisser. Jamais, jamais Dieu va nous abandonner. Puis il est avec nous dans toutes les circonstances, comme on a lu chanter le psaume 23. Je ne crains aucun mal, c'est mon berger, ta houlette et ton bâton me rassure. Il reste devant moi une table en face de mes adversaires, ça veut dire oui, ils ont encore des ennemis, et Dieu va tracer une table devant nous. Plaisir, le bonheur, la grâce, la compagnie. Je ne crains aucun malheur. Je n'ai pas à craindre des malheurs dans les épreuves. Ce n'est pas pour me détruire. C'est Dieu va faire juste les épreuves pour me construire, pour m'amener à aller plus loin avec lui, pour me diriger en avant. Parce que Dieu a prévu de connaître toutes. Il connaît toutes les épreuves qui me sont arrivées dans le passé. Il connaît toutes les épreuves qui m'ont arrivé encore. Il ne permettra jamais qu'une épreuve vienne au-delà des forces. Maintenant, sur Internet, à chaque école, ils vont permettre une sortie, une issue pour sortir. Mais au travers de tout ça, chacun de nous, on est appelé à grandir. On est appelé à porter du fruit. Parce que tout d'un coup, porter encore plus de fruit, il va émonder, il va couper des branches inutiles, mais ça va être pour porter plus de fruit. Ça va être pour nous ramener encore plus proche de lui. Ça, c'est Christ, notre sanctification.
Que c'est lui qui le fait.
C'est ça, c'est lui qui le fait. Puis le troisième, c'est un collier pour oindre tes yeux. Un collier pour oindre tes yeux. Ça, c'est Christ, notre sagesse. Parce que Christ, notre sagesse, a pourvu un plan. Il est sagesse. Il a pourvu un plan royal pour nous autres. Parce que, à cause de Christ, notre sanctification, on a été mis à part. On devient, nous aussi, des sacrificateurs pour Dieu, des serviteurs pour Dieu. On suit Jésus. On devient des sacrificateurs. Mais Christ, notre sagesse, ça veut dire qu'on n'est pas juste des serviteurs. C'est, on devient des rois. C'est Christ, c'est la dimension royale. On est du sacrificateur royal. C'est dans le sens que un enfant de roi n'est pas élevé comme un enfant de reine. Hein, l'enfant de la reine d'Angleterre, chaque situation est tracée. C'est les jeunes de William, c'est moi tout à l'autre, il savait à quelle école il devait aller, il savait à l'âge de 16 ans, qu'est-ce qui devait arriver. Tout est tracé parce que c'est des enfants de roi. Ils sont traités royalement. Mais nous, en tant que croyants en Jésus-Christ, on est des enfants de roi. On n'est pas juste des serviteurs, mais on a une place royale avec Jésus. Christ, notre sagesse, ça veut dire que toutes les choses qui vont arriver sont tracées puis prévues dans le plan du Père. Puis il y a une dimension de roi, de... C'est quelque chose que Dieu nous appelle, il va nous révéler. Ça dit que les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont au roi. Mm-hmm. C'est ça. Mais c'est ça, en tant que roi, Dieu veut nous révéler, ouvrir nos yeux pour voir tout ce qui est à nous en Jésus-Christ. Pour voir l'étendue de l'héritage qui est à nous autres. Pour voir les promesses que Dieu a mises sur notre vie. Parce que Dieu a un logos. À chacun de notre vie, un logos. Il a déclaré que chacun de nous apporterait l'image de Jésus. Jésus, c'est le logos. Il a déclaré que chacun de nous, nous devions porter, que nous allons devenir des petits logos. Une image de Jésus, une reproduction de Jésus. C'est ça notre appel. Mais c'est pas nous autres qui vont nous rendre pareil à Jésus. Ça ne se fait pas par la force de la chair. C'est lui. C'est sa promesse. Mais c'est moi-même. Il dit, j'ai tout pourvu à la croix. Christ, notre sagesse, ça veut dire qu'il y a une sagesse de pourvu à la croix pour nous. Il y a un plan, il y a un dessein royal.
Alléluia.
C'est quelque chose qui nous dépasse. Il y a un logos. Mais là, c'est là que j'arrive. C'est là que j'arrive à la... Parce que là, on a Christ, notre justice, Christ, notre sanctification, Christ, notre sagesse. Mais la promesse que dans verset 20, c'est Christ, notre rédempteur. Christ, notre rédemption. Parce que le mot rédemption, ça veut dire délivrer d'un esclavage. Ça veut dire racheter. Puis, c'est un mot qui était particulièrement employé pour l'épouse de Christ. Racheter l'épouse. Il y a une dimension ici que Christ, notre rédemption, Christ veut se manifester pas seulement comme sacrificateur, pas seulement comme roi, mais il veut se manifester comme époux, venir souper avec nous. C'est ça. Mais un époux puissant. Le mot rédemption, ça parle d'une délivrance. Ça parle de la puissance de l'œuvre. L'œuvre de Dieu, l'œuvre de Jésus en action. Le logos manifesté. Parce que Christ, notre Christ crucifié, les trois premiers. De l'or éprouvé par le feu, des vêtements blancs, et un collier pour moi comme nos yeux, ça parle de ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Ça parle de la base de notre salut. Mais cette dimension-là nous est révélée au travers de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous révèle ce qu'il y a pour nous. Il nous révèle son destin. Il sème dans nous une semence. Parce qu'il a promis des choses. Il y a un logos pour chacun de nous. Il a promis des choses. Mais il faut qu'il commence à semer ça parce que c'est le rhéma du logos. C'est le rhéma, c'est la parole de Christ qui crée la foi en nous. Mais la parole de Christ, ça veut dire rhéma. Le mot parole, c'est le rhéma. Christ, ça veut dire le logos. Donc, c'est le rhéma du logos. C'est la révélation de Christ en nous qui crée la foi et qui l'emmène à la perfection. Parce que lorsque cette foi-là va être créée dans notre cœur, puis lorsqu'on va voir porter ce que Christ nous donne, à un moment donné, ça va enfanter. À un moment donné, le logos va sortir de nous. La promesse que Dieu nous a promis va sortir. Puis on va devenir nous-mêmes des instruments. On va être revêtus de Jésus. Parce que il vient. J'entrerai chez lui, je suis prêt à lui, et lui avec moi. C'est une promesse extraordinaire pour une église complètement déroutée, parce que
froide,
mais Dieu a une promesse extraordinaire pour ceux qui, au travers de cette église froide et tienne, vont se réveiller, vont reprendre du zèle, ils vont se repentir, ils vont se rapprocher à nouveau de Jésus. Ils vont recevoir la révélation de ce que Jésus a accompli à la croix. Tout est accompli. Et en recevant cette révélation-là, ils vont être transformés. Parce que l'Esprit de Dieu, on est transformé de gloire en gloire par l'Esprit de Dieu. Plus que l'Esprit de Dieu nous révèle Jésus, plus on est transformé à son image. C'est automatique. C'est comme quand tu t'exposes au soleil, ta peau grunit. Hein? Tu es transformé. Les plantes sont transformées et s'exposent au soleil. Les plantes. S'il n'y avait pas de soleil, les plantes deviennent toutes blanches. Et parce qu'il y a du soleil, les plantes sont vertes. Mais c'est la même chose avec nous autres. Plus qu'on s'expose au Saint-Esprit de Dieu, on est transformé de gloire en gloire par l'Esprit de Dieu. Plus on regarde aux choses en haut, plus Christ, parce que l'Esprit de Dieu ne glorifie que Jésus-Christ, il prend ce qui est à Jésus, ce qui est accompli à la croix de notre héritage, il nous le communique. Et quand on prend juste le temps de s'approcher de lui, même si on ne s'en rend pas, même pas encore des fois, on est transformé en son image. Dès le moment qu'on se met dans sa présence, il y a une transformation qui commence. Parce que son esprit nous transforme. C'est pas obligé de crier, de prier, de... Quand tu dis, moi je me mets dans la présence de Dieu, aujourd'hui je me mets dans sa présence, et j'entre, à cause du sang de nous, j'entre dans son sanctuaire, il y a une transformation qui commence à s'exécuter là. Dès le moment que tu entres par la foi dans la présence de Dieu, la transformation de l'esprit commence à s'exécuter. Puis là, Dieu commence à inspirer des prières, des louanges, toutes sortes de choses. Mais c'est lui qui fait. C'est son esprit qui est pris au travers de nous autres. Mais ça commence dès le jour que dès le moment que tu fais le temps dans sa présence, la transformation s'exécute. Tu t'en rends même pas compte, mais Dieu est en train d'agir. Puis Dieu est en train d'agir, est en train de mettre toutes les circonstances. Il est en train de transformer ton intelligence, ta pensée. Il renouvelle ta pensée. Il renouvelle toute chose en toi pour justement que tu hérites la promesse. Pour que le Logos devienne actuel. Pour que Christ puisse se manifester dans notre vie. Concrètement. Comme il l'a promis. C'est ça qui est merveilleux. Je m'arrêtais là-dessus parce que c'était comme pour la fin des temps, Dieu a un réveil. Dieu, il a une promesse pour nous autres. Ceux qui vont tenir ferme, il a dit qu'il y aurait la pluie de l'arrière-saison, juste avant son retour. Il a promis une pluie, la présence de Jésus lui-même au milieu de nous. Il a promis une pluie pour ceux qui vont revenir à lui depuis leur cœur. Parce que lui, il y a le mal augmente, il va toujours en augmentant dans le monde. Mais Dieu a un plan aussi. Dieu a un plan qu'au travers de ses ouvriers, qu'il ramènerait son réveil, qu'il ramènerait la puissance de son esprit, puis qu'il réveillerait cette église-là, qui est endormie, qui est froide, qui est tienne, qui va la réveiller. Mais c'est ça, c'est sa promesse. C'est ça qui me bénissait. C'est que c'est tout accompli en Jésus. C'est tout là pour nous autres. Je parlais la semaine passée que le voile déchiré, c'est Jésus, c'est la chair de Jésus. Le voile était fait en quatre sortes de tissus. Le sarin blanc, le pourpre, l'écarlate, le carmosine et le bleu. Là, c'est ça. La promesse de Dieu, c'est le bleu. C'est, le bleu, ça veut dire le céleste. C'est le divin qui vient revêtir l'humain. La dimension, la quatrième dimension de Christ, notre rédemption, c'est Jésus lui-même qui vient dans la place. Mais Jésus, il n'est plus charnel, il n'est plus physique. Il est Dieu. Dieu lui-même. La présence de Dieu. C'est la paix qu'il a sur notre vie, c'est participant de sa nature divine. C'est encore plus que sacrificateur, c'est encore plus que roi. C'est participant de sa nature divine. C'est recevoir Jésus, le Logos, en nous. Puis qu'est-ce qui se passe dans ça là? Ben, ça se passe des miracles, ça se passe des prodiges. Quand Jésus va venir visiter, quand Jésus va être dans la place, toute chose est transformée. Parce que Jésus est Dieu. Il n'y a rien. Il n'y a rien qu'à dire une parole. Puis la chose se fait. Ça peut se arrêter dernièrement. Il dit, regarde les prières de Jésus dans Marc. Dans l'évangile de Marc. Là, je commençais à lire l'évangile de Marc. Je cherchais les prières que Jésus a faites à son père. Là, je dis, il n'y a aucune prière. Je suis rendu à Marc chapitre 14. Je suis rendu à la fin, il n'y a aucune prière que Jésus. Parce que Jésus ne priait pas. Il disait, sois guéri. Il ne priait même pas, il disait, il ordonnait. Parce qu'il était le Logos. Il n'avait pas besoin de prier, il commençait à dire, oh Seigneur, je te prie pour la personne. Oh Seigneur, guéris-la, Seigneur. Là, il y a des armes de tête pour la personne. Là, hop. Non, sois guéri. Il était le Logos. Que la parole, que la lumière soit, la lumière plus. Quand Jésus parle, la chose se fait. C'est aussi simple que ça. Il disait, Mère, arrête-toi. Il n'a pas commencé à prier, oh Seigneur, je te prie, on va périr. Arrête ma mère. Non, il a dit, calme-toi.
Tais-toi.
C'est ça le Logos. C'est ça que Jésus veut venir mettre en lien à nous. Parce que c'est l'autorité que Jésus avait. C'est la même autorité que Jésus veut qu'on vienne. Il dit, celui qui croit en moi fera aussi une œuvre avant que moi je fais. Et en fera de plus.
Pas les autres, les siens.
Mais il parle des œuvres. Pas juste quelque chose d'intérieur. Les œuvres que moi je fais. Il en fera de plus grandes parce qu'il m'a mon père. Jésus a promis d'être avec nous. Puis ça fait partie de sa promesse. C'est ça qui accomplit ici au verset 20. Il dit, moi, c'est chaud. C'est ça qu'ils m'ont entendu finalement. Là. Puis on marchait. Ça fait des années qu'on marche sans voir les signes de Dieu. On marche par la foi. Parce que Dieu nous demande.
Il nous dit,
continuez à vivre dans l'esprit, continuez à marcher par l'esprit, à vous attacher à Jésus, à recevoir ses révélations, à prier, à chercher ma face. Continuez. Que moi, je vais arriver un jour. Moi, je vais venir et je vais manifester ma gloire dans ma vie.
Ça va accoucher.
Dans ma vie, ça va sortir.
Il faut pousser.
Mais il faut persévérer, il faut pousser. Il ne faut pas avoir de crainte parce que déjà, on est béni. Parce que quand on est dans sa présence, on est béni. On comprend des choses dans sa présence, on a des révélations que personne d'autre a. On est béni dans sa présence. Il y a quelque chose, il y a de la joie, il y a de la paix.
Il est là.
Son esprit est là.
Dieu est là.
Dieu est là. Mais il va manifester sa promesse. Tout ce qu'il a promis va s'accomplir. C'est ça qu'on voit le Seigneur, c'est qu'il va le faire. Comme cette même promesse-là pour nous autres aujourd'hui, elle est là encore aujourd'hui. Dieu, sa gloire va venir. On chante ça tantôt.
Il a promis, il a le pouvoir de l'accomplir.
Dieu veut voir sa gloire.
Oui.
Ben, c'est sa promesse. Il l'a promis. De fidèle, de marcher à sa suite, pour savoir son esprit, de couler dans lui, puis d'avoir du zèle pour lui. Dieu nous a aimés, il nous a tellement aimés qu'il est allé mourir sur la croix. C'est rien pour nous de le suivre. C'est quoi? On ne mérite rien parce qu'il a fait, il a tout fait pour qu'on le suive.
C'est ce livre qui te ramène nos âmes.
C'est une grâce que de le suivre. C'est pas un fardeau, c'est pas un joug. C'est une grâce, c'est une joie. C'est pas pénible de suivre. C'est joyeux. Alléluia.
Amen.